J'aimerais nous inviter à ouvrir les 100 livres,
à
faire trois lectures, les deux premières plutôt la première de l'Ancien Testament et les deux autres du Nouveau Testament. Nous allons faire les trois lectures, elles sont longues, mais pour les premiers jours, je veux bien. Jérémie chapitre 23, du verset 9 au verset 12, et puis du verset 14 au verset 20. Sur les prophètes, mon cœur est brisé au-dedans de moi. Tous mes os tremblent. Je suis comme un homme ivre. Comme un homme pris de vin. À cause de l'Éternel et à cause de ses paroles saintes. Car le pays est rempli d'adultère. Le pays est en deuil à cause de la malédiction. Les plaines du désert sont desséchées. Ils courent au mal. Ils n'ont de la force que pour l'iniquité. Prophètes et sacrificateurs sont corrompus. Même dans ma maison, j'ai trouvé leur méchanceté, dit l'Éternel. C'est pourquoi leur chemin sera glissant et ténébreux. Ils seront poussés et ils tomberont. Car je ferai venir sur eux les malheurs. L'année où je les châtierai, dit l'Éternel. Verset 14. Mais dans les prophètes de Jérusalem, j'ai vu des choses horribles. Ils sont adultères. Ils marchent dans les mensonges. Ils fortifient les mains des méchants. Afin qu'aucun ne revienne de sa méchanceté. Ils sont tous à mes yeux comme Sodome. Et les habitants de Jérusalem comme Gomorre. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées sur les prophètes. Voici, je vais les nourrir d'absinthe. Je leur ferai boire des eaux empoisonnées. Car c'est par les prophètes de Jérusalem
que
l'impiété s'est répandue dans tout le pays. Ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent les visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit vous aurez la paix. Ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. Qui a donc assisté au conseil de l'Éternel pour voir, pour écouter sa parole? Qui a prêté l'oreille à sa parole? Qui l'a entendu? Voici la tempête de l'Éternel, la fureur éclate. L'orage se précipite. Il fond sur la tête des méchants. La colère de l'Éternel ne se calmera pas jusqu'à ce qu'il ait accompli, exécuter les desseins de son cœur. Vous le comprendrez dans la suite des temps. Lisons 1 Corinthiens chapitre 5, du 1er au 5e verset. Puis du verset 9 au verset 13.
Simanzela ya libwa kino zomi na misato.
On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Et une telle impudicité qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'on dévoue à la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction. Afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent des corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé. Comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étaient assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus. Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Verset
15e.
Verset 9 plutôt, pardonnez-moi. Jusqu'au verset 13. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relations avec les impudiques. Non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde. Ou avec les cupides et les ravisseurs. Ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit,
ce
n'est pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nommant frère est impudique, cupide ou idolâtre ou trageux ou ivrogne ou ravisseur, de ne même pas manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Et l'apôtre termine de manière forte. Ôtez les méchants du milieu de vous. Terminons avec Ephésiens chapitre 5. Nous lisons le verset 3. Ou le verset 5 à 8. Et puis enfin verset 15 à 17. Quelle impudicité! Qu'aucune espèce d'impureté, que la cupidité ne soit même pas nommée parmi vous. Ainsi qu'il convient à des saints. Verset 5. Car sachez le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Verset 15. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non pas comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez les temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. L'infidélité conjugale, les divorces et les remariages dans l'église de mon pays.
Quel
est le thème que nous allons aborder en 6 sous-points? Et ce soir, nous abordons simplement les premiers sous-points que j'ai intitulé constat, but et raison d'être de cet enseignement. Je voudrais commencer cet enseignement par un triple constat.
Au fait,
ce soir, je ferai part des constats, des rappels Et puis je parlerai des buts de cet enseignement.
J'aimerais
faire trois constats. Et là, je voudrais déjà nuancer et insister en disant les mots que Dieu nous a mis à cœur de stigmatiser, de mettre les doigts dans la plaie. Ainsi que les antivaleurs qui semblent commencer de plus en plus à monter. Qui frappaient tout le monde et qui commencent même à frapper l'église. Les églises au-delà des confessions. Au-delà des dénominations. Au-delà d'églises locales. Ces mots et cet art qui frappent. J'aimerais nuancer, ça ne frappe pas la majorité, pas tout le monde. Mais ce n'est plus déjà aussi une réalité minoritaire comme c'était autrefois.
Ce
n'est pas tout le monde. Mais
ce
n'est pas aussi minoritaire et presque négligeable comme c'était autrefois. J'en reviendrai tout au long de la semaine. Autrefois, dans toutes les églises auxquelles Paul écrivait, il n'y a qu'à Corinthe où il a fustigé l'impudicité. Mais si Paul pouvait écrire aujourd'hui, ça ne serait pas une église isolée, ça serait plutôt un phénomène plus large. C'est pourquoi je dis ce n'est ni la totalité, ni une minorité, mais une quantité tellement suffisante et qui de plus en plus grandit de telle sorte qu'on ne peut pas ignorer et on ne peut pas fermer et les yeux et la bouche. Ces trois constats, le premier, la légèreté est en train de gagner du terrain dans l'église. Sur le plan mœurs, comportement et présence des antivaleurs et disparition des valeurs qui faisaient le poids de l'église. Cette légèreté qui existait aussi autrefois, mais qui était un phénomène isolé, touchant seulement une minorité et des fois une poignée négligeable de venant à l'église. Cette légèreté est devenue tellement grande. Autrefois, elle était présente seulement dans les bancs, mais aujourd'hui, cette légèreté atteint juste la chair et les sacerdoces. Ça atteint et les dirigeants. Et les dirigeants. Et des fois, cette légèreté part des dirigeants vers les dirigés dans l'église. Deuxième constat, l'église commence petit à petit à perdre sa crédibilité, son poids. Ce qui faisait non seulement qu'on la respecte, mais aussi qu'on fasse recours à elle. Où est le respect que l'on donnait autrefois aux hommes d'église? Présente-toi, présentons-nous à la cité. Disons, je suis pasteur, serviteur de Dieu. On vous regarde d'une certaine manière. Crédibilité, poids, parti ou en train de partir. Troisième constat, la chair et les sacerdoces sont de plus en plus en train de perdre leur force. Et surtout, la chair est en train de perdre sa force de frappe. Car ceux qui parlaient autrefois et devraient parler encore aujourd'hui ont la bouche fermée par les erreurs. La bouche fermée par les manquements. La bouche fermée par les faiblesses. Non pas des faiblesses cachées, mais des faiblesses notoires, connu même des membres de l'église. Je l'ai souvent dit ici. Un aîné que j'ai connu tout jeune dans la foi. Pasteur Joseph Kabuya Mansakan. Autrefois aumônier à l'Istan Ndolo.
Il
qui sert le Seigneur aujourd'hui dans l'église de Montréal. Un homme équilibré, un homme constant. Il m'a dit, Roland, les faiblesses volent les messages. Quand tu n'es plus victorieux dans un domaine et que cela est connu, ce message, tu ne peux plus l'enseigner. Certains ont changé de message, non pas parce qu'ils ont de nouvelles révélations, ils ont changé de message parce qu'ils ont été disqualifiés par leur style de vie. Et dans Jérémie 23, qui est le passage de base que Dieu m'a donné, du verset 9 au verset 12,
puis
du verset 14 au verset 20, nous voyons quatre choses qui ressortent. La première, c'est la tristesse du cœur de Dieu. Et cette tristesse que les prophètes ressent, parce qu'un prophète non seulement donne le message, mais il vit aussi ce que Dieu ressent. Et la tristesse de Dieu à cause de son peuple, ce peuple qui porte son nom ou qui prétend le porter. Verset 9. Sur les prophètes, mon cœur est triste au-dedans de moi. C'est le prophète qui parle, mais il exprime le cœur de Dieu. Tous mes autres tremblent. Je suis comme un homme ivre, comme un homme pris de vin, à cause de l'éternel et de ses paroles saintes. Français courant dit, l'émotion m'a brisé. Je tremble de tout mon corps. Je suis comme un homme ivre, étourdi par le vin. C'est à cause du Seigneur, de l'unique vrai Dieu et de ce qu'il m'a dit. Pourquoi cette tristesse dans le cœur de Dieu que Dieu ressent et qu'il transmet à son serviteur? À cause de quatre raisons. La première, à cause du pays. Et quand il parle du pays, il veut parler de son peuple. Ce peuple dont Ésaïe 43, au verset 7 dit, le peuple que Jéhovah appelle de son nom et qu'il a créé pour sa gloire. Et le mot gloire kabod, qu'il a créé pour que l'on sente son poids. Je n'ai pas créé ce peuple pour qu'il soit des touristes. J'ai fait d'eux des ambassadeurs. Je veux que quand le monde les voit, que le monde voit combien je pèse.
À
cause de ce peuple, je sois un poids lourd aux yeux du monde. Mais ce peuple m'a rendu un poids léger.
Et
à cause de cela, il dit, je suis triste. Je suis triste. Et il ajoute, le pays est rempli d'adultère, de ceux qui commettent l'adultère, qui brisent l'alliance du mariage, qui vont avec quelqu'un qui n'est pas leur partenaire officiel. À cause du pays, premièrement. Mais deuxièmement, à cause des gens du pays. Et quand je parle de gens du pays qui portent son nom, aujourd'hui on peut symboliser ça par l'église. Et Jéhovah est triste. Parce qu'au lieu d'avoir la sainteté, la vie des mises à part, ils ont le mal comme style de vie. Écoutez ce que la fin du verset 10 dit le concernant. Ils courent au mal. Une autre version dit, leur cœur est incliné seulement vers le mal. Et je suis effaré, étonné par la phrase qui suit. Ils n'ont la force que pour le mal. Ils n'ont la vigueur que pour le mal. Français courant dit, ils se précipitent vers le mal. Ils sont pleins de courage pour des pratiques inadmissibles. Parole de vie va plus loin. Ils ont beaucoup de courage pour ce qui n'est pas bien. La version de la colombe monte encore d'un cran. Ils n'ont de courage que pour ce qui ne devrait pas se faire. La version Tob va encore plus loin. Ils n'ont d'empressement que pour le mal. Supposé être son peuple. Supposé être la vitrine de quoi, de ce à quoi Dieu ressemble. Mais le mal est leur style de vie. Comme a dit à chanter quelqu'un, j'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église. Et j'ai cherché l'église, malheureusement, je l'ai plutôt trouvé dans le monde. Il court vers le mal. Est-ce ton style de vie, toi, frère et soeur venant à l'église? Est-ce mon style de vie à moi, prédicateur? Je me parle à moi-même. Troisième des choses qui rend le cœur de Dieu triste, c'est que la corruption a atteint même l'endroit ou le niveau où il n'était pas censé arriver.
Les
clergés, les sacerdotes, c'est-à-dire la direction spirituelle.
Le
verset 12 dit, c'est difficile à lire ça. Prophètes et sacrificateurs sont corrompus. Une autre version dit,
ils
sont gâtés. C'est mieux d'ailleurs en lingala. Dis-le encore.
Bapola.
Prophète et sacrificateur gâté. Et Dieu dit, même dans ma maison, j'ai trouvé la méchanceté. Il est étonné, dit, ça ne devait pas être ici. Je le trouve dans ma maison. Des hommes de Dieu qui ont des lits derrière leur bureau. Non pas pour des consultations médicales. Certains, au-delà d'être pasteurs, ils posent des gestes de gynécologues. Dans ma maison. Autrefois, les jeunes filles perdaient la virginité dans le monde. Aujourd'hui, les jeunes filles perdent la virginité dans l'église. Et des fois, les acteurs, ce sont les hommes d'église. Prophètes et sacrificateurs corrompus. Cet homme de Dieu me dit, en me prévenant de quelqu'un, il ne l'invite pas dans ton église. Il a invité celui qui était son ami dans son église. Merveilleux enseignant. Profond.
Bozindo.
Même profond avec P majuscule.
Bozindo penza koloba.
Quand il prêche, vous dites, Dieu lui a donné les fruits de la Bible. Il est né avec une Bible ou quoi? Mais chaque soir, à la fin des enseignements, le pasteur le voyait avec une fille. Il sentait que non, là, les relations étaient passées à autre chose.
Et
cette fille venant avec sa petite sœur de se convertir à peine une année et demie.
Et
le pasteur a fixé rendez-vous avec cette jeune fille. Viens demain à 10h. Je voudrais te prévenir. Il est marié. Fais attention.
Et
le matin, il se réveille à 8h. Il trouve son ami en train de travailler sur le net. Ce du monde dit sur les 7 jours de la semaine, 6 jours pour les voleurs. Un jour pour le patron. Il avait utilisé sa boîte mail, mais il a oublié de fermer.
Et
l'ami vient, il veut ouvrir sa boîte, il voit paf, directement un mail.
Et
crée la petite sœur de cette jeune fille. C'était merveilleux tout ce qu'on a fait hier à l'hôtel. Je
verrais
qu'on se retrouve encore demain. Lui, il soupçonnait avec la grande sœur. Avec qui elle a pris rendez-vous pour 10 heures.
Et
là, il découvre que c'est la petite sœur.
Et
quand la grande sœur arrive une heure après, le pasteur accule et puis celle-ci aussi à vous. Il a fait avec moi 4 fois. Dieu dit prophète et sacrificateur corrompu, gâté. J'aurais voulu demander aux hommes de Dieu qui sont ici de se poser la question, tu es gâté ou pas, mais je ne le fais pas. Je me pose moi-même la question, Roland, tu es gâté ou pas? Merci Christian. Lui second parle des prophètes et sacrificateurs.
Lui second zolo bela banganga nzambe pe basakoli.
Il dit qu'ils sont corrompus.
Alobi bango bazimbi sama.
Les Français courants utilisent un terme fort.
Kasi Français a pété, ça les lit le bon mot qu'on a makasi.
Il dit prophètes aussi bien que prêtres sont des crapules.
Basakoli, na banganga nzambe bango basali bato ya soni.
Tob utilise le terme, ils sont des impies.
Tob alobi bango basali bato ya mbindo.
Le terme crapule cache 4 idées.
Liloba oye bombi makanisi minei.
Première idée,
ya liboso
qui vit dans un état de débauche grossière et vil.
Bango bazobi kana lolenge moko ya ekobo ya mabepe ya soni.
Deuxièmement,
ya mibale
qui abuse dans les vices et dans les mal. Donc nous tous on est mauvais hein. Mais ye koko na ba mauvais. Crapule.
Oyo aleki mabe.
Troisième signification, personne sans principe est capable de commettre n'importe quelle bassesse sans être entraîné. Quatrième signification, personne qui excelle dans le mal. Et cela est de notoriété publique. Crapule. Corrompu. Tob dit un pi. Cela cache trois significations. Qui méprise et rejette les choses auxquelles il devait croire. Deux qui ne respectent pas les valeurs communes admises. Troisièmement, qui sans se cacher va à l'encontre des valeurs communément acceptées. Dieu est triste. Prophète et sacrificateur corrompu. Et Dieu dit même dans ma maison, je trouvais la méchanceté. Quatrième chose qui rend le cœur de Dieu triste, c'est le verset 14 qui le montre. Non seulement qu'ils sont méchants, inclinés vers le mal. Et je crois que c'est cette quatrième raison qui rend encore le cœur de Dieu triste. Ils ne sont pas de solistes dans le mal. Ils encouragent le mal. Ce sont des apôtres, est-ce mal?
Bango bazali bantoma oyo bakubela na mabe.
Bizarre ce que la Bible dit.
Kokamwa oyo Bible elobi.
Difficile à lire.
Ezali pasi kotanga yango.
Mais dans mes prophètes de Jérusalem, j'ai vu des choses, Dieu dit, horribles.
Kasi na basakoli na ngai na Yerusalemi nzamba lobi na moni biloko ya somo.
Parole de vie dit des choses inacceptables.
Parole de vie elobi biloko oyo na koyoka nzima te.
Tob dit des monstruosités. La colombe dit des choses dégoûtantes. Une autre version dit des choses qui donnent la nausée. Écoutez ce que la Bible dit. 1. Ils sont adultères. 2. Ils marchent dans les mensonges. Mais là n'est pas le plus grave. Le plus grave, ils fortifient les mains des méchants. Quelqu'un est touché, vient et dit, je vais quitter le deuxième bureau, papa, tika, ngolo, nzambe, zali.
Non, continue, la grâce de Dieu est là.
Une jeune fille est touchée par le message, je suis quatrième bureau de quelqu'un, j'en ai un saut qui t'a dit que c'est mauvais.
Avec Dieu, on quitte petit à petit.
Il fortifie les mains des méchants. Et Dieu dit afin qu'aucun d'eux ne revienne de sa méchanceté. Donc des fois les gens veulent même quitter le mal, mais eux par leur style de vie, par leur prédication, ils les gardent. Dieu est triste. Si vous voulez être perdu, soyez perdu vous-même. Peut-être votre devise, l'enfer sera un peu plus doux s'il y aura plus de personnes. Français courant dit, ils encouragent les malfaiteurs. Ils empêchent ainsi chacun de renoncer à mal agir. Parole de vie dit, ils soutiennent ceux qui font le mal. Ainsi, personne ne peut arrêter de mal agir. Tob va plus loin. Il prête main forte aux malfaiteurs. On peut appeler leur assemblée association des malfaiteurs. Il prête main forte. C'est la première chose que ce passage nous montre. Tristesse dans le cœur de Dieu. En ces quatre points. Mais deuxièmement, si Dieu ne s'arrête pas à être triste, on voit aussi la colère de Dieu. Vis-à-vis de deux groupes de personnes. Et le peuple qui suit. Et le responsable spirituel qui entraîne. Écoutez le verset 15. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais les nourrir d'absinthe. Je vais leur faire boire des eaux empoisonnées. Français courant dit, je vais les nourrir d'amertume. Je vais les forcer à boire de l'eau empoisonnée. Parole de vie, je vais leur donner une plante amère à manger. Et Dieu justifie sa colère.
Il
dit, car c'est par les prophètes de Jérusalem que l'impiété s'est répandue dans tous les pays. Ce qui devait répandre la sainteté, la crainte de Dieu. Répandre l'impiété. Français courant dit.
Français a pété
les prophètes de Jérusalem sont une source polluée qui contamine les pays. Et la colère de ce Dieu va plus loin au verset 17. Et on voit d'où sa colère devient forte. Ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit vous aurez la paix. Amen, simplement l'offrande. Ceux qui me méprisent notoirement, ils leur parlent d'une paix en prétendant c'est l'Éternel qui a dit. La fin du verset 17 dit, ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal.
Ne suis pas ces messieurs-là, ils en font un peu trop.
Ils consolident les gens dans le mal.
Mais
on voit aussi, troisième des choses, Dieu responsabilise aussi le peuple. Seigneur, donne-moi une église qui a les yeux ouverts. Trop de naïveté dans l'église de notre pays. Trop de naïveté parmi les sœurs. Non, pour ton problème, on fera la prière bouche contre bouche, tête contre tête. Ça ne se fait jamais avec les frères. L'homme de Dieu a dit. Vu le problème que tu as, tu dois venir à 23h seul sans ton mari et je vais te rendre moi-même. J'ai une semence spéciale. Si je vais avec toi, c'est comme un bulldozer, ça va aller ouvrir le chemin. Un homme m'a dit, sa femme a mis au monde, mais là, regardez l'enfant, mais ça, c'est la tête du pasteur. Et le pasteur a dit, c'est l'onction parce que c'est moi qui ai intercédé. Cette onction a besoin d'un test ADN. Naïveté. Et Dieu responsabilise le peuple. Au verset 16. Ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Dieu, après avoir blâmé les prophètes, dit aussi à vous le peuple, vous aussi. Il dit, il vous entraîne à des choses de néant. Ils disent les visions de leur cœur. Non, ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Seigneur, donne-nous un peuple responsable. Je bénis Dieu pour l'église de Béré. Bien que c'était l'apôtre Paul qui enseignait. Mais quand il enseignait, ils allaient vérifier dans les Écritures si ce que Paul avait dit était vrai. Tout ce que l'homme de Dieu dit aujourd'hui est vrai. Tout ce que Daddy, la dadification a dit est vrai.
Oh non, so daddy, oh non, so tata, l'obaki, Ezaya solo.
J'ai parlé à une jeune fille, j'étais choqué.
Na sola kine lenge mwasi moko na beta kili baku.
Elle est venue avec son fiancé vers un supposé homme de Dieu. J'ai difficile à l'appeler comme ça.
Aye, na mo banda mine na libale pa na moto moko ba ko benga moto na nzambe na za na pasi ya ko.
Certes, elle avait le problème de possession. Alors, chaque fois que tu viens, je dois prier pour toi nu.
Solo penze za kina milimo mabeka sabi mbala nyoso ko esengena bonde la pona oza la bolo.
Et la prière au début à distance a commencé par elle a commencé à palper. C'est ça toujours l'esprit.
Et za kina bandeli na mosika pe komi ko simba simba wana peka molimo.
Des attouchements.
Pe komi ko simba na nzoto.
Cette jeune fille dit j'ai tellement vu Dieu agir par lui, je dis que c'est une méthode de Dieu. Leader corrompu, peuple naïf. Si votre pasteur ne vous parle pas du péché, de sa gravité et de la gravité de ses conséquences, s'il n'ose pas hausser le ton en rapport avec les péchés, il y a quelque chose d'anormal. On présente l'apôtre Paul comme l'apôtre de la grâce et je suis d'accord. Je suis d'accord avec cette doctrine qui même quelquefois a été bafouée par l'église. On nous a commencé même à nous présenter comme une forme de légalisme. Mais grâce ne veut pas dire licence. Écoutez ce que l'apôtre de la grâce a dit. Dans Corinthiens 5, verset 1 à 5, il a fait constat de l'impudicité et une impudicité telle qu'on ne trouve pas chez les païens. Et il a dit, vous êtes enflé d'orgueil. Vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction. Enfin, que celui qui a commis une telle chose fut ôté du milieu de nous. C'est l'apôtre de la grâce. Et l'apôtre de la grâce ajoute, pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent. Celui qui a commis un tel acte, au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan. C'est l'apôtre de la grâce qui livre à Satan. C'est pas l'Ancien Testament. Et l'apôtre de la grâce va plus loin. Il dit au verset 9, je vous ai écrit dans ma lettre, ne pas avoir des relations avec des impudiques. Il va plus loin. Verset 11, maintenant je vous le déclare, de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nomme frère et impudique ou cupide. L'apôtre de la grâce dit de ne même pas manger avec lui. Et il va plus loin au verset 13. Ôtez les méchants du milieu de vous. Quatrièmement, Dieu promet un jugement. Il dit qu'il ne restera pas passif devant ses comportements. Il les fait savoir au verset 19 et 20 avec des mots forts. Voici la tempête de l'Éternel. La fureur éclate. L'orage se précipite. Ils font sur la tête des méchants. La colère de l'Éternel ne se calmera pas jusqu'à ce qu'il ait accompli. Exécuter le dessein de son cœur. Et dit, vous le comprendrez dans la suite des temps. Je fais part des quatre constats. J'aimerais rappeler un certain nombre de choses. Faire revenir à notre mémoire des choses importantes. Combien quelquefois les rappels sont importants.
En
pédagogie, on dit, la répétition est la mère des sciences.
Il est étonnant
dans la Bible de voir même la place de la répétition.
Le
Dieu qui a donné la loi sur la montagne a fait écrire à Moïse Deutéronome. Deutéronome, c'est la répétition de la loi. Pourquoi Dieu est-il encore revenu? Philippiens chapitre 3, au verset 1er, l'apôtre déclare, je ne me lasse pas de vous écrire sur les mêmes choses. Si vous vous lassez de les entendre, si vous vous lassez de les lire, moi je ne me lasse pas de vous écrire.
Il
déclare, cela vous est salutaire. Français courant dit cela vaut mieux pour vous. La colombe dit cela est une sécurité. Et ces choses que j'aimerais rappeler, la première, c'est que l'église ou ecclesia Ecclesia, appelée hors d'eux. L'église, c'est l'ensemble de ceux qui ont été appelés hors du monde. Pour révéler, pour montrer Dieu, as-tu été appelé hors du monde? L'église, c'est-à-dire le groupe des appelés hors du monde, hors de la corruption, hors de la vaine manière. Nous avons trois choses. Nous avons un statut. Nous avons une position. Et nous avons une vocation. 1 Pierre 2, 9 à 10 le dit. J'aime, après avoir parlé des gens qui vivent d'une certaine manière, il met un distinguo. Vous au contraire. Vous différemment. Vous êtes une race élue. Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Un peuple acquis. Tout ça, statut et position. Et puis vocation. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière.
Le
mot annoncer veut dire clairement. Divulguer ou fructifier. Faire connaître par la proclamation. Mais que vous divulguiez quoi, que vous montriez quoi. Il dit les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Le terme vertu ici en grec a trois pensées. La première, c'est l'excellence sur le plan moral et caractère.
Il
veut dire, si le monde veut savoir à quoi ressemble le caractère de votre Dieu, il le verra par vous. De la même manière, un ambassadeur est un peu l'image de son pays. Il dit, c'est ce que je veux que vous soyez. Vertu veut dire aussi la façon de penser et d'agir, mais élevée. Mais troisièmement, vertu veut dire ce qui fait la valeur et qui élève. Français courant dit même, afin que vous démontriez ces œuvres magnifiques. Est-ce que notre vie révèle les œuvres magnifiques de Dieu?
Mais
des fois, par notre style de vie, les mondains disent, si être chrétien, c'est être ça. Il n'y a pas de différence entre eux et nous. Dans une église à Bandal, je l'ai parlé ici, un pasteur a été chassé. Parce que sur 20 filles de la chorale, le pasteur est allé avec
18.
Et la dernière est tombée enceinte. On a fait un culte, ça s'est mal passé.
Et
dimanche à l'église, les grands Yanké du quartier qui prend du chanvre est venu lui-même et dit Ngamuru n'a remis non pas pasteur mais pape à l'église Oyo.
Moi-même je suis devenu non pas le pasteur mais le pape de cette église.
Pour Ngamuru n'a pas soumis mais la degré n'a été.
Parce que moi aussi je pêche mais pas comme le pasteur.
Il reconnaît qu'il est pêcheur mais dit c'est lui qui prêche ici. Alikinga na dose.
Ayebete ye pasa mosubu ki kasimotei asubu kaka kolekaye.
Deuxième rappel. Il y a des choses qui conviennent à la chrétienté et aux chrétiens. Des choses qui conviennent individuellement, collectivement, mais qui conviennent aussi à nous tous en tant qu'institution. Des choses qui conviennent à ceux qui disent qu'ils sont enfants de Dieu. Ephésiens 5, verset 3 que nous avons lu. L'apôtre déclare solennellement avec force quelle impudicité pornéa en grec. Et ce mot qui contient l'infidélité, la prostitution, les relations illicites. Et il ajoute un certain nombre de choses. Je suis étonné par les mots qu'il utilise. Il dit que ces choses ne soient même pas nommées au milieu de vous. Il
ne
parle pas d'être fait. Être nommé. Et puis il ajoute, comme il convient à des saints. Comme il convient à des saints. Au travers de ce passage, l'apôtre Paul veut dire trois choses. Il veut dire, premièrement, il y a une démarcation, où il doit y avoir une démarcation entre les enfants de Dieu et les autres. C'est pourquoi il dit, ainsi qu'il convient à des saints. Jeune fille, il y a des habits qui ne conviennent pas aux supposés enfants de Dieu. Il y a des attitudes qui ne conviennent pas.
J'oublie jamais. 93. J'étais responsable de la jeunesse de notre église. Un frère nouvellement converti, après 9 mois. Je rigole d'avance, il est allé en Europe. Il m'a envoyé deux choses, j'oublierai jamais. Une paire de chaussures grosses qui avait du métal devant. Vous voyez de quoi je voudrais parler. Les connaisseurs comme Papa Véron n'ont pas besoin de réfléchir 30 secondes. Docteur quelque chose.
Docteur Matins.
Et il m'a envoyé un ensemble en cuir. Plein de ceintures qui entraient et qui sortaient. Je porterai ça un samedi à la jeunesse, je n'irai pas en enfer. L'Esprit de Dieu ne va pas se tromper d'adresse à cause de l'extérieur. Mais je disais, ça ne convient pas au leader que je suis. Si je venais comme ça samedi. Ah, il fallait voir maintenant les samedis qui allaient suivre. Tout ce que les gens hésitaient à mettre. Il y a des choses qui ne conviennent pas aux saints. Homme de Dieu, il y a des attitudes qui ne conviennent pas. Toucher les sœurs n'importe comment. Alors ma sœur, ça va? Même plus loin, jusque là, Dieu est au contrôle, ma soeur. Ah, je vois qu'il y a du Vita Christ. Hein? Il y a des choses qui ne conviennent pas. J'ai appris cela d'une soeur, j'étais choqué. Elle va voir un homme de Dieu dans son bureau. Elle était mariée. Et la soeur, Dieu l'a fait comme si elle avait des courbes. Bien fait. Et quand il se lève pour partir, le pasteur l'appelle et dit, tout ça là c'est pour ton mari seulement. Il y a des choses qui ne conviennent pas. Pasteur, même si tu as vu, tais-toi. Il y a des choses qui ne conviennent pas. Paul dit ainsi qu'il convient à des saints. Les mots convenir dit qu'ils vont bien ensemble. Il y a des choses qui ne vont pas bien avec la chrétienté. J'en ai assez de gens qui discutent. Et montre-moi le verset où il est écrit, il ne faut pas porter des mini-jupes. Montre-moi. Quand tu dis ça, je dis déjà tu as des problèmes. Non, pas des problèmes. C'est tellement grand, c'est des problèmes. Et ces problèmes que tu as, c'est comme en sociologie, ce sont des problèmes globaux et totaux. Qui ne vont pas bien ensemble. Deuxièmement, qui ne se marient pas. Les termes grecs veulent parler de l'harmonie entre couleurs. Dit, il y a des couleurs qui ne vont pas ensemble. Il y a des langages qui ne vont pas de pair avec la chrétienté.
Je vais aller en retraite avec ma secrétaire.
Mais
ne soupçonnez rien, frère. Ça ne convient pas. Un ami trouve un autre ami pasteur dans son bureau. Sa secrétaire est en train de lui faire des massages. au niveau du cou. Quand l'ami rentre, il dit qu'on soupçonnait un esprit à bien. Quel esprit à bien? Alors qu'il est trouvé là les yeux tournés. Les mains d'une femme avec le corps d'un homme. Ça ne convient pas. Pasteur Ken, le jour où je te trouve comme ça, je ne vais pas crier sur toi. Dis-le en français, c'est bon.
Le jour où je te trouverai ainsi, je vais te rosser.
Convient veut dire aussi être bon l'un pour l'autre. Mais l'apôtre Paul veut dire une deuxième chose. Il veut élever haut les standards en termes d'éthique et de morale des chrétiens. Il
ne
parle pas de la présence de ces choses. Il dit que ces choses ne soient pas nommées. Si leur présence est déjà grave, je ne veux même pas qu'on tolère le fait qu'on en parle. Français courant dit qu'il ne soit pas mentionné. Parole de vie dit qu'on ne doit même pas en entendre parler. Combien de fois la Bible utilise le mot convenir? Dites 2-3 dit. Il parle des femmes qui doivent avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. J'en ai parlé ici, je le répète encore. Je fais ça, une jeune fille était choquée, je dis je vais aller dans cette direction. Trois quarts du poitrine à l'extérieur, donc pour elle, la signification du poitrine c'est le bout. Bien parlé. Elle me présente. C'est mon pasteur. Je dis pas quoi. Je dis je ne suis pas ton pasteur. Si je l'étais, je cesse de l'être aujourd'hui. Il y a des choses que l'on peut tolérer dans ceux qui commencent à venir à l'église, qui ont besoin d'être enseignés. Mais les combles des gens qui ont 5 ans, 10 ans, et ils parlent. Moi, je suis dans la foi depuis 22 ans. Hein. Moi, c'est Heidi Nabala qui m'a baptisé. Vous sont des diacres qui vous ont baptisé. Moi, c'est Jacques André Vernon lui-même. J'y vais.
Et
Jacques André Vernon disait.
Jacques André Vernon banaye koloba.
Tout baptême non précédé de la nouvelle naissance n'est qu'un bain.
Libatisi nyoso. Oyo nano yambi Yesu te liboso nango ezaka koke ko sokola.
Timothée 2:10 parle de la parure en bonne œuvre qui convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Mais troisièmement, l'apôtre Paul veut montrer que la présence de certaines choses est une anomalie. Soit on est chrétien, on n'a pas ces choses. Soit on n'est pas chrétien, alors on peut les avoir. Troisième rappel. Nous avons une mission et un rôle à jouer devant les non-croyants. Si nous le faisons, deux choses arrivent. Un, notre Dieu est glorifié. Mais deux, cela sert d'appât. Cela sert d'appât. Pas. Cela montre à quoi la chrétienté ressemble. 1 Pierre 2:12. Ayez au milieu des païens une bonne conduite. C'est ce à quoi Dieu nous appelle. Philippiens 2:15. Nous appelle d'être irréprochable. Et être des enfants de Dieu irrépréhensibles. Au milieu d'une génération perverse et corrompue. Parmi laquelle nous sommes appelés à briller comme des flambeaux dans les mondes. Matthieu 5:14.
Matthieu 5:16.
Jésus dira à ses disciples, vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Mais qu'ils glorifient mon Père qui est dans les cieux. Les bonnes œuvres viennent de chez vous. Mais la gloire retourne vers Dieu. C'est ça notre mission. Quatrième chose que je vais rappeler. Dieu, le croyant. Et même le monde attend beaucoup de leaders spirituels. De ceux qui se tiennent devant comme moi. Le leadership ne fait pas de nous des super-hommes, des super-women spirituels. Mais nous sommes appelés à être des référents. Des modèles. Dans notre comportement. Sur le plan éthique. Dans notre vie de couple. 1 Timothée 4:12. À son fils dans la foi, soit un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en pureté. Soit un modèle. Le terme utilisé là, modèle, c'est le terme grec que l'on utilise en couture. Pour parler des patrons dans la reproduction des habits en série. C'est-à-dire les modèles sur lesquels on calque tout pour reproduire selon.
Il
dit, soyez des modèles pour les troupes de fidèles. Français courant dit, soyez un exemple pour les croyants. Parole de vie dit, montre l'exemple aux croyants. Tite chapitre 2, au verset 7. Paul dit à son fils qu'il a placé là-bas de se montrer lui-même à tous égards un modèle en bonnes œuvres.
Dans
1 Pierre 5:3, Pierre encourage les pasteurs en disant, soyez des modèles. Et je suis frappé par Philippiens 3.
Au verset
17. Paul dit, soyez mes imitateurs, frères. Et portez les regards sur ceux qui marchent selon les modèles que vous avez vus en nous. Cinquième chose que j'aimerais dire à rappel avant de conclure tout à l'heure. Il y a non seulement des privilèges attachés au fait d'être leader spirituel, mais il y a aussi des exigences. 1 Timothée 3, premier au verset 3, et puis au verset 8. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, c'est une bonne chose. Et puis il dit, il faut.
Ce n'est
pas s'il veut. Il faut. Que un, l'évêque soit irréprochable.
Qu'il n'y
ait rien à redire sur lui. Mari d'une seule femme. Une autre version dit, ne voyant la nudité que d'une seule femme. L'évêque. Réglé dans sa conduite. Verset 3, qu'il ne faut pas qu'il soit adonné au vin. Le verset 8 parle des diacres, mais toujours des leaders. Pas de duplicité, qu'ils n'aient pas deux visages. Je termine ce soir en vous donnant le but de cet enseignement. Le premier but, c'est nous ouvrir les yeux sur trois fléau qui ronge l'église. Qui longtemps été géré par les autorités ecclésiastiques. Et qui les gère avec fermeté. Mais qui désormais s'invite et s'invite même chez les autorités de l'église. L'infidélité. Les divorces à tort et à travers. Les remariages et les
ré-remariages.
Et je voudrais en voyant cela dire comme Néhémie, voyez les malheureux états dans lesquels nous sommes. Si le vieux Aïdina Bala, si le vieux Makanzu revenait, ils diront, est-ce que c'est la même église que nous avons
laissée?
Deuxième but de cet enseignement.
Nous ouvrir les yeux aux hommes et aux femmes qui sont mariés sur les méfaits, les conséquences néfastes de l'infidélité conjugale. Nous en parlerons demain.
Ainsi que
du divorce. Enfin de nous aider à ne pas ouvrir cette brèche. Ou de ne même pas l'envisager comme solution. Troisième but et raison d'être de cet enseignement. Ouvrir ou réouvrir les yeux de l'Église sur la position de Dieu sur les mariages. Que Dieu veut que l'on puisse honorer. Mais c'est surtout sa position vis-à-vis du divorce. Nous en parlerons avec la grâce de Dieu déjà mercredi ou jeudi. Quand Dieu utilise un terme fort, il dit j'ai hey, la répudiation. Un Dieu qui a de la haine. J'ai hey, la répudiation. Quatrième raison d'être de cet enseignement. Montrer que le seul, pour ne pas dire la seule option de la répudiation d'après la Bible et les conséquences qui s'y attachent. Montrer dans la Bible que c'est vrai, Dieu envisage une possibilité de rupture. Et d'après la Bible et d'après l'enseignement de Jésus-Christ, il n'y a pas d'autre raison à part celle-là. Et même quand cette raison est utilisée, il y a une gestion. Comment faire? Comment vivre?
Cinquièmement,
montrer comment la fidélité conjugale ainsi que la vie des couples qui durent sont de bonnes choses. De bonnes choses pour Dieu. De bonnes choses pour les conjoints. De bonnes choses pour les enfants. De bonnes choses pour la force. La crédibilité. Et les témoignages de l'Église. Et puis enfin, sixième raison d'être de cet enseignement. Montrer les conséquences dans les temps et dans l'éternité du fait de vivre une vie de dissolution sur le plan sexuel et mœurs. Les conséquences. Et rompre les mariages dans l'église et surtout dans les ministères. J'aimerais alors que nous baissons nos têtes et fermons nos yeux, que nous puissions nous tenir la main dans la main.